d'Europe, Juliette Rangeval.
Salve, yo, mi chiamo
Coteca Ashita Abla.
Mi chiamo Stella.
Mi chiamo Endes.
Io sono Maria.
Bonjour, c'est l'un des sujets prioritaires pour les jeunes à l'occasion de ces élections européennes. La question des migrants. L'an dernier, plus de 150 000 personnes ont risqué leur vie en traversant la Méditerranée pour rejoindre l'Europe. 1 million en 2015. C'est à ce moment-là que l'Italie a appris à connaître Silvio Calo. Il défend l'idée d'une Europe humaine, ce qui lui a valu menaces et attaques. Silvio Calo, qui se présente aux élections du 26 mai, sous les couleurs du Parti démocrate, son portrait avec Cécile Debarge.
La première fois que la presse italienne a parlé de Silvio Calo, c'était en 2015, au cœur de ce qu'on a appelé à l'époque la crise migratoire. Ce professeur de philosophie d'une soixantaine d'années décide avec sa femme Nicoletta et ses quatre enfants d'accueillir chez eux, à Camalo, dans la province de Trévise, 6 migrants. De cette expérience que sa femme a racontée dans un livre, il a théorisé le modèle 6 plus 6 fois 6, qui se veut une bonne pratique de l'accueil des migrants, diffusable à grande échelle. 6 plus 6 comme les 6 membres de sa famille, plus les 6 migrants subsahariens accueillis. Fois 6 pour faire référence aux 6 professionnels qui accompagnent les migrants afin de garantir leur bonne intégration. Il prévoit donc un avocat, un médecin, un enseignant, un traducteur, un assistant social et enfin un psychologue. Afin que le modèle soit économiquement viable, chaque professionnel suit le parcours de 6 groupes de 6 migrants. Voilà en quelques mots le modèle Calo. Pour avoir osé proposer cette idée, Silvio Calo a reçu insultes, intimidations et le groupe d'extrême droite Forza Nuova a été jusqu'à installer des banderoles de protestation devant les portes du lycée où il enseigne. En 2018, il a reçu le prix du citoyen européen de l'année et cette année, il a rejoint la liste du PD, le Parti démocrate, afin de faire valoir ses idées jusque Bruxelles. Pour une Europe humaine et un monde meilleur donc, tout simplement et en dépit des menaces.
Et c'est sur l'immigration que la Ligue du ministre italien de l'Intérieur a bâti sa popularité. À l'approche des élections européennes, c'est encore la carte migratoire que veut jouer Matteo Salvini. Il veut durcir encore un peu plus sa politique en faisant payer des amendes aux navires qui viennent au secours des migrants en Méditerranée.
C'est l'histoire d'un capitaine, d'un bateau européen et de citoyens engagés. Fidèle au principe de solidarité des gens de mer, il crée SOS Méditerranée.
D'après l'Organisation internationale pour les migrations, près de 20 000 personnes sont mortes en mer depuis le début de ce qu'on a appelé la crise migratoire. Et les ONG ont de plus en plus de mal à intervenir. Depuis décembre dernier, l'Aquarius, le navire emblématique de SOS Méditerranée, est à quai, à Marseille. Les ONG accusées de jouer le jeu des passeurs. L'organisation SOS Méditerranée a récemment interpellé les eurodéputés dans un clip vidéo pour qu'ils défendent le droit international maritime. Et la porte-parole de l'organisation, Sophie Rahal, répond aux accusations. Elle est l'invitée d'Accent d'Europe. Elle est au micro de Catherine Roland.
Il est évident qu'on dément ces accusations. Elles sont récurrentes. Ce qui nous désole, c'est qu'elles arrivent parfois du plus haut sommet de l'État. Et les propos de M. Castaner ont été prononcés avant lui par le chef de l'État. C'était à l'été 2018. C'est simplement la reproduction d'une rhétorique qu'on entend très fréquemment du côté de l'extrême droite italienne. De nombreux procureurs en Italie ont enquêté sur les activités des ONG en Méditerranée. Aucune de ces enquêtes, à l'heure actuelle, n'a abouti. Il n'a jamais pu être prouvé qu'il y avait la moindre collusion entre les passeurs et les acteurs de l'humanitaire en Méditerranée.
Alors, ce qui est étonnant, c'est que cette polémique ressurgisse en 2019, alors que le nombre de migrants qui a traversé la Méditerranée a chuté drastiquement. Et pour cause, les ONG comme SOS Méditerranée sont empêchées de travailler en mer.
On essaie de nous faire croire que ces mesures sont efficaces. Et la première preuve à l'appui de ça, c'est effectivement le nombre d'arrivées qui est en baisse drastique en Italie. Le souci, c'est que cette baisse des arrivées, elle s'accompagne d'un taux de mortalité qui, lui, n'a cessé d'exploser en mer Méditerranée. Et le problème, c'est qu'il y a peut-être moins de gens qui arrivent, et ça, c'est conforme à la volonté exprimée par Matteo Salvini, mais il y a tout autant de gens qui tentent de s'enfuir de la Libye et qui tentent cette traversée de la Méditerranée, et il y en a tout autant qui meurent. Je crois qu'on en est déjà à plus de 400 pour le début de l'année 2019.
Alors justement, votre organisation SOS Méditerranée n'a plus de bateau pour partir en opération. Vous êtes toujours à la recherche d'un navire pour remplacer l'emblématique Aquarius.
Oui, on a dû mettre un terme, donc, aux opérations de l'Aquarius, c'était le 31 décembre 2018, l'année dernière. en raison de multiples attaques, qu'elles soient politiques, qu'elles soient judiciaires, qu'elles soient administratives. Il nous a semblé plus simple de mettre un terme au contrat d'affrètement qui nous liait avec l'armateur de l'Aquarius et de partir en recherche d'un nouveau bateau. Tout ça, ça prend énormément de temps parce que l'Aquarius était un bateau très particulier qui avait été aménagé pour pouvoir faire des opérations de sauvetage en mer et pour pouvoir accueillir des gens très souvent dans un état de détresse extrême. Il nous faut donc un bateau qui soit une capacité d'accueil à peu près équivalente, mais surtout il faut que ce soit un bateau sur lequel on puisse par exemple installer une clinique pour pouvoir accueillir des femmes, des hommes qui sont parfois blessés, des femmes qui sont parfois enceintes, certaines qui accouchent sur le bateau, des petits-enfants qui sont aussi très fragiles. Il nous faut aussi la possibilité de pouvoir aménager sur le navire deux zodiacs, les zodiacs que l'on déploie ensuite en mer pour pouvoir aller
récupérer les migrants
à la rescousse, voilà, de ces embarcations de fortune. Donc tout ça, ça nécessite beaucoup de recherches, ça nécessite des tractations avec des armateurs, de pouvoir nous ensuite visiter les navires potentiels et imaginer un petit peu comment est-ce qu'on va pouvoir les aménager. Et puis surtout, il nous faut un navire dont on sait que l'armateur est au courant de ce que l'on fait et que ce n'est pas un problème pour lui. Parce que notre activité de recherche et de sauvetage en mer est devenue problématique politiquement.
Alors voilà pour votre action concrète en mer, si vous réussissez effectivement à fréter un nouveau navire. Mais vous appelez aussi les politiques, les futurs eurodéputés, à peser sur le futur Parlement pour défendre la reprise des sauvetages en mer au nom de certaines valeurs que l'Europe, dites-vous, est censée défendre.
En fait, et c'est aussi ce qui fait la légitimité de notre action depuis le début, c'est qu'elle se base sur le droit et sur les textes, sur le droit maritime, sur le droit international, sur tout un tas de conventions que je pourrais énumérer ici, la convention SOLAS, la convention SAR pour Search and Rescue, recherche et sauvetage en mer, la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, etc. Notre socle légal est là. On sait sur quel texte on légitime notre action. Ces textes affirment, d'une part, que tout bateau en capacité de le faire doit se porter au secours d'un navire en détresse ou d'une personne en détresse, et qu'en plus, un sauvetage est déclaré terminé lorsque les naufragés d'un navire sont déposés dans un lieu sûr. Ces textes-là, ces droits-là ne sont pas respectés, y compris par les gouvernements européens. C'est pour ça que, à la veille des élections européennes, il nous a semblé fondamental de rappeler d'abord sur quoi on appuyait notre action, et ensuite d'appeler les citoyens qui soutiennent notre action à interpeller eux-mêmes les candidats, à vérifier si oui ou non le droit était respecté en matière de préservation de la vie humaine et de sauvetage en mer. Il s'avère que le droit n'est pas respecté. On a pu l'observer. On essaye, nous, de l'appliquer. C'est compliqué, mais il était fondamental de rappeler que on n'est pas des pirates de la mer. On est là simplement parce que le droit nous impose de secourir quelqu'un qui se noie.
Sophie Rahl, la porte-parole de SOS Méditerranée. Un autre bateau symbolise la fermeture des ports européens aux migrants. C'est le Lifeline, ce bateau affrété par une ONG allemande. Pendant une semaine, avec 230 migrants à bord, il avait cherché un port pour débarquer en Méditerranée. C'est à Malte que s'était terminé son odyssée. Et l'histoire, elle ne s'est pas arrêtée là pour son capitaine Klaus-Peter Reich, qui a ensuite dû faire face à la justice maltaise. Il vient d'être condamné à 10 000 euros d'amende. Un procès qui signe les difficultés des ONG pour sauver des vies en mer. Depuis Berlin, Julien Méchaussy a recueilli la réaction de l'organisation Mission Lifeline, dont le siège est à Dresde, dans l'est du pays.
Klaus-Peter Reich descend les marches du tribunal de La Valette, la capitale maltaise, le visage fermé. Devant les nombreuses caméras qui l'attendent à sa sortie, le capitaine du Lifeline n'en démord pas. Pour lui, ce jugement ne repose sur aucune base légale. À l'appui de ses dires, il présente un document affirmant que le bateau était correctement enregistré. Cofondateur et porte-parole de l'ONG Mission Lifeline, Axel Steyer est catégorique. Jouant téléphone alors qu'il se trouvait encore à Malte, il s'agit d'un jugement à caractère politique.
Cela reste malgré tout une condamnation et ça montre bien qu'on nous empêche par tous les moyens de venir en aide aux migrants. Ce jugement est un message politique clair. Il s'agit de décourager les ONG de sauver des personnes en détresse. 10 000 euros, c'est beaucoup d'argent pour nous. Mais nous ne nous laisserons pas intimider. Nous avons décidé de repartir en mer dès le mois de juin.
Axel Steyer a annoncé dès le jugement la volonté de l'ONG de faire appel de cette décision. Seule une relaxe constituerait à ses yeux une décision juste. Malgré ses difficultés judiciaires et le bateau Lifeline contraint de rester à quai jusqu'à la fin de la procédure, l'ONG a fait l'acquisition d'un nouveau bateau tout en prenant ses précautions cette fois-ci.
Nous sommes maintenant prévenus. C'est pour cette raison que nous ne communiquons pas sur le type de bateau dont nous avons fait l'acquisition. Nous l'avons fait immatriculer à l'abri des regards. Nous sommes contraints de changer de stratégie. Avant, nous présentions notre bateau à nos donateurs pour qu'ils voient ce que nous faisions de leur argent. Aujourd'hui, nous devons agir en cachette pour éviter les problèmes judiciaires.
De nouvelles poursuites qui pourraient empêcher le bateau de prendre la mer et donc de sauver des vies. C'est cela le risque pour les ONG qui viennent au secours des migrants en perdition, comme Mission Lifeline, Axel Steyer.
Tout est fait en Europe pour nous empêcher de travailler, même si les États européens sont prêts pour cela à s'arranger avec la législation en vigueur. Mais nous avons décidé que, peu importe les pressions que nous subissons, nous devons aider ces gens. Bien sûr qu'une fois en mer, notre bateau sera connu de tous. Mais avant cela, nous aurons peut-être pu sauver des vies. Et à nos yeux, c'est le plus important.
Car peu importe les restrictions imposées aux ONG ou encore les interdictions de débarquer les migrants dans les ports, notamment italiens, les migrants, eux, continueront de risquer leur vie pour rejoindre les côtes européennes. Depuis le 1er janvier, au moins 300 migrants sont morts noyés en traversant la Méditerranée.
Il faut aller voter, parce que si on n'y va pas, ce sera les autres qui vont déterminer vos choix, vos désirs et aussi vos espoirs.
Bonjour Ingrid Terwatt.
Bonjour Juliette Rangeval.
Cette semaine dans Courrier International, vous nous emmenez en Italie. On va commencer avec Emma Bonino. C'est une grande dame de la politique italienne et elle s'engage en faveur de l'Europe.
Oui, Emma Bonino, c'est une sénatrice italienne de gauche et comme l'explique le journal espagnol El País, elle a lancé en janvier son parti Più Europa. Più Europa, ça veut dire plus d'Europe en italien. Et c'est justement ce qu'elle veut aujourd'hui. Et donc elle se présente sous cette étiquette aux européennes du 26 mai. Alors, Emma Bonino n'en est pas du tout à son premier coup d'essai en politique. Elle milite en faveur des droits des femmes et des droits humains depuis les années 70, moment où notamment elle s'est battue pour la légalisation de l'avortement en Italie. Ensuite, elle est devenue députée pour le Parti radical et elle a été 3 fois ministre en Italie. Dans les années 90, elle devient même commissaire européenne. Plus récemment, elle s'est engagée pour l'accueil des migrants et, bon, a été un petit peu moins présente parce qu'elle est malade aujourd'hui. Et pour autant, elle compte pas du tout abandonner la politique. Et son défi, et d'ailleurs pas des moindres aujourd'hui, c'est sauver l'Union européenne.
Mais pourquoi est-ce qu'elle veut sauver l'Union européenne plutôt que l'Italie?
C'est vrai, c'est une bonne question et elle y répond dans les pages d'El País en disant, je la cite, « Plus d'Europe, ça veut dire plus d'Italie. Cela veut dire que notre développement économique et humain se fait dans le contexte européen et non pas dans l'autarcie. » En fait, selon elle, les prochaines élections européennes vont être un tournant qui mènera soit à une Europe ouverte et démocratique, soit à une Europe fermée et ultra-nationaliste. Alors vous aurez bien compris que Emma Bonino préfère franchement la première option. En Italie, les partis au pouvoir sont très largement eurosceptiques. Mais alors, quand on dit à Emma Bonino que l'Union européenne est pas très populaire, ni dans son pays, ni ailleurs en Europe, elle rétorque, et elle a raison, que c'est précisément pour cela qu'il faut se battre et qu'il faut changer les mentalités. Pour elle, l'Europe est, je cite, un bateau qui prend l'eau de toutes parts. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut s'aborder ce bateau et partir à la nage, non. Ça veut dire que, même si on est en pleine tempête, il faut sauver le bateau Europe.
Alors, en parlant de problèmes sociaux, le journal italien La Repubblica a révélé un scandale qu'on ne pensait plus possible en Europe de l'Ouest.
Absolument, Juliette. Vous avez sûrement déjà entendu parler du label Made in Italy, qui est censé être un gage de luxe et de qualité. Bien, ce label n'est pas synonyme, forcément, de bonnes conditions de travail, et c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, c'est justement ce que montre le journal italien La Repubblica. Dans une très longue enquête, il raconte comment des ouvrières du sud de l'Italie travaillent au noir, parfois 12 heures d'affilée, à des cadences effrénées chez elles, pour fabriquer des chaussures de grandes marques qu'on connaît toutes et tous, comme Ferragamo ou Gucci. Ces chaussures sont vendues 500 euros en magasin. Et les ouvrières, elles, ne sont payées que 0,82 centimes d'euros ou maximum 1,50€ la paire. Elles n'ont ni contrat de travail, ni couverture sociale et parfois, elles doivent même faire appel à leurs enfants adolescents pour pouvoir tenir la cadence. Évidemment, ce système est illégal et pourtant, il est très répandu. Pour baisser leurs coûts, Les entreprises de la mode sous-traitent à d'autres entreprises qui elles-mêmes sous-traitent. Et à chaque fois, chaque intermédiaire prélève une commission. En bout de chaîne, évidemment, il ne reste plus grand-chose pour payer les petites mains. Tout ça, c'est la conséquence des relocalisations de certaines entreprises en Italie après des décennies de délocalisation en Asie et en Europe de l'Est. Et le constat n'est pas à l'amélioration pour autant. La Repubblica l'assure, je cite, « De l'Albanie ou du Bangladesh à l'Italie méridionale, les conditions de travail ne changent pas ». Alors du changement, il y en a quand même un tout petit peu. Après la publication de son enquête, la marque Ferragamo s'est débarrassée de l'un de ses fournisseurs et a offert des contrats aux ouvrières lésées.
C'est une bonne nouvelle.
Voilà, c'est sûr que c'est une bonne nouvelle, mais pour vraiment changer les choses, c'est tout le système qu'il faudrait changer, pas juste un sous-traitant.
Merci Ingrid Terwatt, Courrier International, à bientôt.
À bientôt.
La musique avec Vincent Teval. Bonjour Vincent.
Bonjour Juliette.
Aujourd'hui, on écoute Bobby Orosa.
Et oui, sur son premier album, le musicien finlandais Bobby Orosa met ses pas dans les traces des grandes pointures de la soul des années 60, dont les disques tenaient une part importante dans la collection de ses parents, aux côtés d'enregistrements de chansons folk brésiliennes, africaines ou sud-américaines. Bobby Orosa est né à Helsinki et a grandi au sein d'une famille d'artistes. Son grand-père, notamment, qui était d'origine bolivienne, interprétait souvent des classiques cubains à la guitare. Et avant même la fin de ses études, Bobby Orosa décide d'y aller voir par lui-même et passe quelques mois à Santiago de Cuba pour étudier les percussions et le chant, un savoir-faire qu'il va mettre à profit à son retour en Finlande, où il devient un musicien d'accompagnement très demandé sur la scène locale. Aujourd'hui, c'est à son tour d'être dans la lumière avec This Love, premier album sobre et élégant.
Avec Keep on Believing, le choix musical de Vincent Teval, qu'on retrouve la semaine prochaine. Accent d'Europe à la réalisation Françoise Grelot. Nous sommes de retour juste après le week-end. En attendant, vous retrouvez ce podcast sur RFI.fr. Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous réécouter sur la page Facebook de l'émission. À bientôt.